100% raisin, des mots en bouteille. Épisode 7, un pont traversé. J'ai toujours écrit. D'aussi loin que je me souvienne, l'écriture a toujours été une bouée de secours, le réceptacle de mes humeurs. Ce projet audio me tournait dans la tête depuis un moment déjà, plusieurs années même, et j'avais établi des listes de sujets, envisagé des thèmes et même testé des génériques. Tout cela était resté à l'état de projet, classé dans un nouveau dossier, code couleur bleu. Bleu comme mot, comme sonorité, comme « dehors le ciel est bleu ». Mais rien à faire. Procrastinant, sédimentant sans aboutir, sans cesse je le repoussais en invoquant une idée à venir forcément meilleure. Et puis il y eut ce repos forcé, cette porte soudainement claquée sur le monde et derrière laquelle je me retrouvais coincé. D'autres comme moi héritaient du même sort. Alors il y eut la parole de Wajdi Mouawad, que je découvrais, et qui me traça la voie en me faisant comprendre que les mots lus à haute voix sont en réalité un pont jeté vers les autres et qu'ils n'avaient pas seulement vocation à rester confinés leur vie entière. Car c'est par l'écriture toujours qu'on pénètre le mieux les gens, témoigne Maupassant. La parole éblouit et trompe, parce qu'elle est mimée par le visage, parce qu'on la voit sortir des lèvres, et que les lèvres plaisent et que les yeux séduisent. Mais les mots noirs sur le papier blanc, c'est l'âme toute nue. Ainsi, ces mots qui s'épuisaient dans ma tête depuis des années, je les ai projetés vers le dehors et la réalité du monde. Vers ces autres, vous autres, que je peux désormais toucher, par la magie d'une médiation sonore, des mots en décalé que je dicte dans le micro de mon téléphone et qui me reviennent en écho, pour se perdre dans votre tête, minuscules particules qui m'appartiennent encore et que je vous abandonne. Et bizarrement, ce confinement, au lieu de m'enfermer, avait fini par me pousser hors de moi et me relier au monde. Il faut écrire pour écrire, pas pour ce que l'on écrit. Ne pas modifier ce que l'on a écrit et suivre le cours de ses idées. L'écriture, c'est ce qui permet de ne pas sombrer dans la folie. C'était la vision de Marguerite Duras. Une écriture de l'urgence, incisive, presque désespérée mais toujours nécessaire et salvatrice. L'écrit, ça arrive comme le vent. C'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit. Et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie. Rien de plus, sauf elle, la vie. Et un peu plus loin, elle disait « Écrire, c'est hurler sans bruit. » Je me rappelle ces longues et lancinantes évocations du Mékong, le passage du bac sur le fleuve, dans l'eau boueuse et les remous. Le Mékong et ses bras qui descendent vers les océans, ces territoires d'eau qui vont aller disparaître dans les cavités des océans, écrit-elle, dans la platitude à perte de vue, ces fleuves, ils vont vite, ils versent comme si la terre penchait. Et mes mots penchent aussi et versent désormais dans l'oreille d'autres que moi. Cette habileté à ruisseler, ce principe d'écoulement se retrouve dans la dégustation qui jette, elle aussi, une passerelle entre une saveur et nous-mêmes. La dégustation est une décentration, une mise à distance de soi pour rester le plus impartial et le plus proche de la vérité du vin. Inné de mauvais critiques que de juges. Apprendre à aimer, c'est cela savoir déguster. Il faut aimer les vins, leur histoire, leur lieu, leur grâce et leur hésitation pour les évaluer au plus juste. Déguster des séries de vins à l'aveugle, tout le jour, dès 9h du matin parfois, est un exercice de morale et de discipline, qui requiert concentration et abnégation. Pour ne pas glisser vers la facilité, tomber dans le docile et inutile « j'aime, je n'aime pas ». Que vaut mon avis personnel s'il n'est rapporté qu'à un goût qui n'appartient qu'à moi et que le public ne connaît pas ? Il y a une vocation d'universalité dans la critique, une exigence de compréhension et de largesse, une mise à distance de soi, du vin lui-même ensuite, que l'on jauge à l'aune de son potentiel et donc de son histoire, de sa durée, de son intention. C'est toujours la première chose que je recherche chez un vigneron, son intention. Connaître la raison de ses choix et de son engagement, quel qu'il soit, comprendre sa vision esthétique du vin, l'intention première de l'œuvre et de la création. J'aime savoir pourquoi il fait tel geste, pourquoi il vinifie sans soufre, pourquoi le bio, pourquoi aujourd'hui et pas avant, pourquoi pas le bio, pourquoi le travail au cheval, pourquoi la grappe entière, pourquoi des préfermentaires à froid, Pourquoi 20% de barriques neuves et pas 50? Pourquoi des 400 litres et pas des 225? Pourquoi ici de la Syrah et pas du Grenache? Et ça donnerait quoi? Quelle saveur? Quelle structure? Quelle forme? Pourquoi tu filtres et pourquoi tu filtres pas? Pourquoi tu colles et pourquoi tu colles pas? Pourquoi tu plantes à 10 000 pieds? Pourquoi tu rognes pas? Pourquoi tu tailles en gobelet? Pourquoi tu bouches Liège et pourquoi synthétique? Pourquoi? Réponds-moi. Explique-moi. Je veux savoir. Je veux tout comprendre. Je veux arriver à entrer dans ta tête, ne serait-ce qu'un instant. L'éternelle question du pourquoi. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Pourquoi nous et pas le vide? Pourquoi le bleu et pas la nuit éternelle? Je repose ma question, une fois, deux fois, trois fois, sans jamais renoncer, jusqu'à ce que je comprenne entièrement la raison première, le point de départ, ou plutôt jusqu'à ce que le vigneron mette en mots ses habitudes et ses savoir-faire. Parfois, il n'y a pas trop à questionner. Chez les grands vignerons, l'évidence apparaît immédiatement, le discours est limpide, le pourquoi précède proprement le comment, tout devient pur, éclairant, rassurant. Il y a cette même énergie dans l'écriture. Pour qu'une œuvre soit rythmée, écrit Kupka, ses moindres parties doivent y concourir, se commander, se solliciter, se répondre l'une à l'autre. Le rythme réside dans les retours périodiques d'analogie, dans la symétrie des lignes et des limites. Et puis il y eut le contre-exemple. Le vigneron qui n'explique pas, qui a l'intuition pure, l'habitude géniale et qui rythme ses vins sans se soucier du comment. Par enchantement, dans la symétrie des gestes et des saveurs. Ce fut une visite chez Henri Bonneau. C'était à la fin de l'été 2013, dans les premiers jours qui glissent doucement vers le terme de la saison. Ce vigneron était l'un des mythes de Châteauneuf-du-Pape, une figure difficilement accessible parce que hors du monde, de son époque, de ses modes et de ses contraintes. Il fallait être introduit, passer par des personnes de son entourage qui avaient ses faveurs et sa confiance. On nous avait donné rendez-vous dans l'un des cafés du village, sans nous laisser d'adresse. À partir de là, nous devions migrer tous ensemble, d'un seul élan, vers la grotte du Sage. C'est un endroit qui ne ressemble à rien, banal et rétréci. Une cave au fond d'une petite cour, une antre sous une discrète maison de village au mur décrépit, avec un vieux pressoir encore debout, des outils de vignerons accrochés au mur, des sols usés par les piétinements, les tombereaux de raisins déversés là, acheminés par l'étroit couloir de la cuisine que nous avions dû traverser pour accéder nous aussi au repère. On ne s'attend à rien quand on arrive chez Henri Bonneau. Seulement on n'y vient jamais par hasard. Forcément les dés sont faussés, on cherche les indices, les détails du grand homme et de son génie. On ne trouve rien d'autre qu'une armée de fûts de guingois, se tenant les uns aux autres, ventrus et plus tout frais après leurs loyales années de service. Il y a là de la barrique bourguignonne et des foudres plus importants. Aucun n'est neuf. Le bois n'a plus d'odeur, il ne reste que l'écorce, divin réceptacle du précieux liquide. Quelques cuves en émail cramoisi d'un autre siècle semblent attendre leur heure. On voit les mêmes parfois chez d'autres, mais elles sont généralement au rebut, prêtes pour un dernier voyage. Celles d'Henri Bonneau sont vaillantes, la verticalité réjouit. L'espace-temps soudain se fissure, nous propulse à travers les âges, de ceux où l'on travaillait à l'instinct, sans instrument de mesure ou de laborantin. Pas de cuve thermorégulée en inox rutilant, pas de système de refroidissement, pas de vérification des taux de soufre, encore moins de levure en sachet plastique. Serait-ce qu'Henri Bonneau est un fainéant? On est dubitatif. Mais le vin parle pour lui. Cette matière gracile, polie, où rien ne dépasse, pas un mot de trop, pas une arête. Ces textures de taffetas tapissent la bouche sans ne rien dire de plus, et c'est déjà suffisant. On comprend que l'intuition, le bon sens, la relation à la terre ont fait leur œuvre et ont balayé toutes les techniques les plus savantes, les raisonnements les plus poussés. Oxygéner, aérer, bâtonner, égrapper ou ne pas égrapper, filtrer, coller, remonter, piger, délester, une ou deux fois, quand et à quelle fréquence, enzymer, levurer. Henri Bonneau saute allègrement toutes ces étapes, il danse au-dessus de la science, nargue les fondamentaux. Ses vins sont un pied de nez au traité d'œnologie. Bio avant l'heure, naturiste par nature, vigneron simplement, il faisait ses vins comme son père et son grand-père les faisaient avant lui, sans se poser de questions. Intuitif, réfléchissant avec sa tête et ses pieds ancrés au sol, il savait ce qui convenait à ses grenaches. Il les connaissait, les écoutait, les soignait, leur prodiguait de bonnes attentions. Henri Bonneau transformait la matière, faisait d'une poignée de grains de raisin une œuvre mémorable et savoureuse. On pourra toujours ensuite lui prêter toutes les intentions du monde, se glisser dans sa tête, recréer une esthétique. Il n'en avait cure, son vin était fait pour être bu. Nous remontâmes en procession au rez-de-chaussée, dans la partie principale de la cave. Il y régnait un sérieux bazar, un désordre soigneusement agencé dans un dédale de barriques que seuls les habitiers pouvaient déchiffrer. Quelques lettres tracées à la craie sur chacune d'elles indiquaient la catégorie du vin, un code cabalistique dont le mérite était de ne pas influencer l'amateur. On put cracher dans tous les coins, au débotté, la seule règle étant qu'il n'y en avait pas. Comme un papillon, Marcel, le grand-fils d'Henri, virevoltait de barrique en barrique, s'enquérait du prochain vin à faire goûter, se réjouissait du potentiel des 2011 et se glissait entre les fûts qu'il connaissait par cœur. Henri Bonneau vinifiait depuis 1956. Il avait connu le temps du vrac dans les années 70, quand les affaires tournaient difficilement. À la fin de la décennie 80, le critique américain Robert Parker l'avait encensé, faisant grimper sa cote, et le domaine était devenu une adresse très prisée. Le numéro 35 de la rue Joseph-Ducos à Châteauneuf-du-Pape est une façade comme une autre, tout ce qu'il y a de plus banal. Pas même un coup de peinture récent sur le crépi. L'habitat est toujours le même. On ressent ici les vies de famille qui s'y sont écoulées. Le vaisselier, les fauteuils n'ont pas changé de place. Le temps n'a jamais franchi la porte. Pourtant, Henri Bonneau était un avant-gardiste. Les modes ont passé, les techniques évoluées, lui n'a rien changé. Il méchait encore ses tonneaux sans aucune mesure de soufre, à l'instinct. Les fermentations en cuve, avec levure indigène et sans contrôle des températures, prenaient leur temps, parfois jusqu'à un an. Puis les vins patientaient en barrique, entre 6 à 10 années, selon l'humeur et la matière. Henri Bonneau était un affineur. Voilà pourquoi chaque gorgée de ses vins est un délice. Des tanins de soie, une finesse de texture admirable, des parfums enjôleurs, ces Châteauneuf tirent plus vers la Bourgogne que le soleil et la rocaille du sud. Ils sont comme ces fleuves qui versent comme si la terre penchait. Une omelette aux truffes et des bécassines aux cèpes plus loin sont apparues une réserve des Célestins 1998, au nez de sous-bois et de champignons, puis son alter ego en 2005, finement poivré, de grande puissance, qui commençait à se faire. Les millésimes exceptionnels, on en a un ou deux par décennie. Des mauvais, un tous les 20 ans. Le reste est agréable à boire, disait Henri. Même le décrié millésime 2002 trouvait grâce à ses yeux. Il est bon, il est resté le même que lorsqu'on l'a mis en bouteille. Pendant la guerre, on s'en serait contenté. Je ne suis pas retourné chez Henri Bonneau. Il est mort en mars 2016 à 78 ans. J'ai conservé cette visite en mémoire et l'ai écrite pour écrire, suivant le cours de mes idées, amalgamant mes souvenirs jusqu'à reconstituer l'image, non pas la plus fidèle, mais la plus apte à mon bonheur. Et aujourd'hui, les mots l'ont figé et rendu éternel, très noir sur fond blanc. Et vous les recevez, et ils hurlent sans bruit, et je peux continuer de vivre.